France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Les massacres à l'été 2025 visant des Druzes à Soueïda, en Syrie, commis par des groupes armés, rappellent brutalement à quel point ces communautés se retrouvent régulièrement au centre des tensions au Proche-Orient. Alors au-delà de l'urgence et des bilans, ces événements soulèvent des questions plus profondes. Pourquoi une minorité numériquement réduite devient-elle si vite un enjeu régional? Qui sont les Druzes? Quelles sont leurs croyances? Et comment cela nous éclaire-t-il sur le rapport des différentes communautés Druzes au pouvoir central? Un invité ce soir pour nous éclairer, Wissam Alaoui. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé à l'Université de Lausanne, titulaire de la chaire d'histoire de l'islam et des mondes musulmans, spécialiste de l'Orient musulman médiéval et prémoderne. Vous publiez dans la fameuse collection Que sais-je, l'ouvrage intitulé Les Druzes, un livre qui a paru aux presses universitaires de France. Merci d'être présent ce soir dans Questions du soir.
Nous sommes contre tout projet de division. Nous avons toujours appelé à une Syrie unie avec Damas comme capitale. Jaramana s'en réfère à Damas. Et nous n'acceptons pas qu'Israël vienne nous défendre. Nous n'avons jamais demandé la protection d'Israël. Et nous ne leur demanderons jamais, ni à aucun autre pays en dehors de la Syrie. Nous, les Syriens, on sait se défendre. Et on se met autour d'une table, ensemble, on cherche des solutions. Et on fait en sorte de résoudre les problèmes. On ne veut pas d'une nouvelle guerre ou de nouveaux conflits.
Qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le mal qu'on a fait aux gens? En tant que minorité, de quoi sommes-nous coupables?
Nous vivons tous aujourd'hui de grandes difficultés. Une très grande épreuve. Évidemment, tout est fomenté par des acteurs extérieurs et cela vise tous les Syriens.
Si nous laissons ces divisions prendre le dessus, nous allons détruire notre pays. Nous devons tous œuvrer à reconstruire notre nation et son peuple.
Témoignage de Druze de Syrie de juillet 2025. Et si l'on remonte justement à juillet 2025, il faut observer ces massacres à Soueïda qui arrivent alors que l'actualité politique de la Syrie est extrêmement forte. Chute du régime d'Assad quelques mois plus tôt, arrivée de nouveaux dirigeants à Damas avec notamment Al-Shaara, recomposition des rapports de force. Pourquoi, selon vous, ces massacres-là, Wissam Alaoui, arrivent à ce moment précis?
Alors, c'est une très bonne question parce que, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé, les Druzes, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Syrie pratiquement, notamment, sont une minorité religieuse et sociale. Les massacres de Soueïda en juillet 2025, il faut les replacer dans le contexte d'autres massacres qui ont précédé à cela, qui est celui des Alaouites. Donc une autre minorité musulmane qui se trouve en Syrie. Et à l'époque, on avait mis cela sur le compte du fait que les Alaouites étaient les alliés du pouvoir de Assad et donc que c'était des loyalistes à Assad. Après, quand il y a eu les massacres des Druzes, là, on est sur un autre... sur une autre question, on va dire, qui est la question de l'appartenance à l'islam, qui est la question de l'hérésie en islam, la question des minorités en islam. Et les Druzes, si je remets dans un contexte encore plus large, si vous vous souvenez, quand Daesh a envahi une partie de la Syrie et du bas Irak, deux villages Druzes étaient sommés en 24 heures de se convertir au sunnisme. Donc, on est dans une configuration où un pouvoir plutôt barbare, ou on peut le qualifier comme on le souhaite, mais un djihadiste, en tout cas sunnite, très fondamentaliste, qui prend le pouvoir et qui n'accepte aucune pluralité en islam. La pluralité qui a toujours existé dans le monde musulman et parmi les communautés musulmanes. En revanche, là, votre question, c'est quand un pouvoir est fragile, pourquoi les communautés prennent cher? Cela se traduit à travers 15 siècles d'histoire et non pas uniquement maintenant. À chaque fois qu'un pouvoir califal à l'époque médiévale, sultanien à l'époque prémoderne ottomane ou plus tard, qu'un pouvoir était fragilisé en manque de popularité, il s'en prenait soit à des minorités musulmanes, soit à des minorités non musulmanes, comme les chrétiens et les juifs.
Je voudrais qu'on essaye de comprendre dans ces 25 minutes d'échange que nous allons avoir ensemble, qui sont les druzes, quelle est leur singularité, pourquoi les considérer au sein de l'islam, au sein d'espaces nationaux que sont la Syrie, le Liban, Israël, comme des minorités. Vous avez employé une expression pour qualifier les druzes, celle de minorité sociale et religieuse. Commençons par cette dimension religieuse, justement, sur le plan doctrinal, sur le plan de la doctrine de l'islam. Qui sont les druzes ?
Alors, je vous dirai un peu qui sont les druzes. Je ne pourrai pas tout vous dire ce soir, parce qu'il nous faudra un peu plus de temps. En revanche, effectivement, cette question de minorité religieuse et sociale, c'est quelque chose de très important, parce que depuis qu'ils sont un peu dans les médias, depuis les massacres de Souaïda, j'entends beaucoup de journalistes, donc de collègues à vous, mais aussi des collègues à moi, qui se gargarisent en disant « c'est une minorité ethno-religieuse ». Je rappelle, en préambule, que les Druzes sont des Arabes musulmans. Donc, la question ethnique n'a rien à voir ici. Et c'est une mauvaise appréciation. Donc, qui sont les Druzes ? Les Druzes, c'est un mouvement doctrinal, ésotérique notamment, qui est né au XIe siècle en Égypte.
Ésotérique, c'est-à-dire qu'il y a dans leur lecture de l'islam une dimension cachée, notamment.
Alors, la traduction de cachée n'est pas la bonne. Permettez-moi. Le cachet renvoie à quelque chose qu'on essaie de cacher parce qu'il n'est pas bien. D'accord ? La dimension ésotérique, c'est l'interprétation ésotérique, et donc spirituelle, uniquement adressée à des initiés de l'islam. Je prends l'exemple le plus classique, le Coran, le livre sacré, on va dire, chez les musulmans. Pour les Druzes, comme beaucoup d'autres communautés musulmanes, notamment les chiites, les ismaéliens, les alaouites, les nizarites, les nousaïris, le Coran est un texte apparent, donc exotérique, et n'a pas de sens sans son âme, qui est son interprétation allégorique et donc ésotérique. Et donc, ils vont de pair.
Sur cette dimension religieuse, il faut aussi dire un mot du contexte dans lequel cette doctrine druze, la pluralité de la doctrine druze a vu le jour. Et cela se situe au Caire, dans un califat bien précis.
Tout à fait. Le mouvement druze est né dans le Caire fatimide. Fatimide, c'était un califat qui a fondé le Caire en 969. Le Caire que l'on connaît aujourd'hui est fatimide. Il n'existait pas avant. C'était plutôt Foustat, la capitale de l'Égypte, avant cela. Et ce califat est chiite ismaélien. Et les druzes sont des ismaéliens. Donc, c'est un califat qui va naître en concurrence complète et directe avec le califat sunnite abbasside de Bagdad. Pendant deux siècles, ce sera deux califats extrêmement concurrents.
Lorsque vous parlez donc de minorités sociales et religieuses, pour évoquer les druzes, là encore, dans leur complexité, quelle est cette dimension sociale qui les unit ? On a bien compris que les druzes vivaient dans plusieurs pays, hein, notamment en Syrie, au Liban, en Israël. Ils sont aussi, pour certains, membres d'une diaspora beaucoup plus large. Hein. Certains druzes vivent, par exemple, en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui les unit sur le plan social, lorsque vous parlez de minorités sociales ? En l'occurrence
Ce qui les unit, c'est notamment le rapport familial. Alors, les druzes eux-mêmes vont vous expliquer en long et en large que c'est la religion qui les unit. Mais la plupart des druzes ne connaissent rien à leur religion, puisque c'est une religion ésotérique et donc qui est adressée uniquement aux initiés. Et il n'y a que 5% des druzes qui sont initiés. Donc, ce qui unit tous ces druzes qui se trouvent, comme vous l'avez rappelé, beaucoup dans la diaspora, en Australie, en Amérique du Sud, et Syrie, Liban, Palestine, Israël, c'est la question du lien social, familial, parce que c'est des mariages entre druzes. On n'est druze que quand on est druze. C'est un jeu de mots, donc on est druze que quand on est de père et mère druze.
On ne peut pas le devenir, on ne peut pas se convertir.
On ne peut pas se convertir, et on ne peut être druze que si nos deux parents sont druzes. Donc, si vous voulez, c'est une communauté extrêmement fermée où, depuis l'époque médiévale, les familles veulent conserver ces mariages endogamiques, on va dire, sans parler de mariages entre cousins, mais ça existe beaucoup aussi. Et donc, c'est une solidarité sociale très clanique, très tribale. La société druze est une société extrêmement tribale, puisque quand ils partent, quand le druzisme est interdit au Caire très rapidement après sa fondation, le druzisme n'existera plus tard qu'en Syrie et dans les montagnes syriennes, ce qui correspond aujourd'hui au pays qu'on a cité, et donc dans un milieu extrêmement clanique et tribal.
Ce qu'il faut peut-être évoquer par ailleurs, c'est le rapport de ces communautés druzes, selon qu'elles se trouvent en Syrie, au Liban et en Israël, ce rapport complexe, particulier qu'elles entretiennent avec l'État, avec le pouvoir central. On sait que c'est un rapport particulier parce que elles vont tenter tout de même d'établir un lien fort, un lien important avec la centralité du pouvoir national et dans le même temps tenter de préserver cette autonomie nécessaire.
Tout à fait. Et cela n'est pas particulier aux druzes. Si vous regardez, par exemple, au Liban, la communauté maronite, si vous regardez la communauté alaouite, qui s'appelait Nusayri avant, on peut observer la même chose. Ce sont des communautés rurales, minoritaires, qui vivent entre elles, qui sont ouvertes à l'extérieur, mais qui restent quand même dans le dogme du secret, etc. Mais qui sont très conscients de leur vulnérabilité et leurs élites politiques et militaires ont toujours été proches du pouvoir. Donc ce n'est pas aujourd'hui que les Druzes sont proches du pouvoir. Ils ont toujours réussi à avoir un échange fructueux et une alliance avec le pouvoir central. Donc, si vous voulez...
Quel que soit ce pouvoir central, c'est ça qui est peut-être compliqué à comprendre pour les Européens, les Français que nous sommes, c'est indépendamment de la couleur politique, de la nature du pouvoir central, les Druzes parviennent dans le temps à nouer des alliances nécessaires ?
Regardez l'histoire. Ma réponse est oui, mais regardez l'histoire. C'est-à-dire que les Druzes, c'est une minorité ésotérique. Dans l'ésotérisme, la politique, c'est de l'exotérisme, c'est pas l'essentiel. Donc la politique est là uniquement pour sauvegarder la paix et la liberté de cette communauté à vivre de manière semi-autonome, comme vous l'avez rappelé, ce qui est le cas. D'accord ? Donc, pour les Druzes, la politique est de l'exotérisme, donc ça ne peut pas diviser. Et donc, vous prenez l'exemple de 48 avec la création de l'État d'Israël. Les Druzes palestiniens étaient complètement pro-israéliens. Ils ont combattu avec le Yishuv et à l'époque contre les pays arabes et les forces arabes, alors que leurs corps légionnaires en Syrie et au Liban vont combattre avec étaient pro-palestiniens dans le nationalisme arabe, etc. Mais cela n'a pas divisé la communauté parce que ça reste de l'ordre politique. Et donc, c'était une réussite, puisque les Druzes, aujourd'hui en Israël, vivent très bien. Ils ont un statut qui est similaire à celui des Juifs, contrairement aux Arabes, qui ont un statut bien inférieur.
Il faut dire effectivement un mot des Druzes en Israël. C'est une situation particulière. Les Druzes en Israël ne sont pas une minorité parmi d'autres. C'est une minorité qui est protégée par Israël. Alors d'abord, pourquoi ? Pour quelles raisons historiques ? Ensuite, quelle forme concrète prend cette protection-là ?
Si vous voulez, c'est une véritable minorité et j'ai entendu depuis l'intervention israélienne en Syrie pour protéger les Druzes de Souaïda,
notamment sur le plateau du Golan.
Voilà, le fait qu'Israël est intéressé par diviser la Syrie. Ce qui est possible, moi je suis pas là pour imaginer ce que Israël souhaite faire, parce que on est dans un monde qui est très mouvant et j'imagine qu'on n'y arrive pas. Pour les Druzes, pour Israël et pour les gouvernements successifs israéliens, la communauté druze est une minorité qui n'est pas très influente au niveau électoral. En revanche, symboliquement, les Druzes est une minorité arabe qui est la seule à avoir accepté, participé à la à la formation de l'État israélien. Donc, pour les Israéliens, cette symbolique est extrêmement importante parce que c'est les seuls Arabes, on va dire musulmans en plus, qui vont participer de cela. La protection des druzes, de la communauté druze, déjà, les druzes d'Israël sont très forts pour faire du lobbying, hein, c'est, donc sont très proches de différents gouvernements, le Cheikh Tarif d'Israël est très proche de Netanyahou, etc., du Premier ministre israélien. Donc, ils ont toujours réussi à faire cela. À l'époque médiévale, ils étaient très proches du gouverneur de Damas, puis ils étaient proches du sultan quand le gouverneur n'était pas d'accord avec eux, ils allaient jusqu'au Caire, ils frappaient à la porte du sultan, etc. Donc, ils ont toujours eu cette pratique, on va dire, vis-à-vis du pouvoir. Et l'intervention israélienne au Golan, mais surtout lors du massacre de Souaïda, qui va jusqu'à bombarder Damas, elle a été faite sous lobby druze d'Israël.
On l'a dit, hein, des druzes au Liban, en Syrie, en Israël. Quel est le niveau de solidarité entre ces différentes communautés par-delà les frontières nationales ? Il est extrêmement fort.
Il est extrêmement fort malgré les divisions apparentes qu'on peut voir au niveau politique. Malheureusement, depuis quelques mois, quelques années, je dirais même, c'est les chefs religieux maintenant chez les druzes qui veulent faire de la politique. Avant, ils ne faisaient pas autant de politique, c'était les chefs politiques qui faisaient de la politique, comme par exemple au Liban, Walid Jumblat, et avant lui, Kamal Jumblat. Maintenant, c'est les chefs religieux qui se mettent à faire de la politique. Et donc, c'est un mauvais signe, en tout cas. Mais ces chefs religieux, si vous voulez, il y en a un au Liban, deux en Syrie et un Tarif en Israël, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc il y en a celui du Liban et un de ceux qui sont en Syrie sont pro-nationalistes arabes et ils veulent l'alliance avec Al-Sharia. Les autres veulent l'alliance avec Israël et la création pratiquement d'un État druze ou d'un royaume druze. D'où le projet est très clair maintenant, où les druzes réécrivent l'histoire en disant que Souaïda et le Golan n'est pas Souaïda et le Golan n'est pas syrien, mais c'est le royaume de Bashan, c'est-à-dire le royaume biblique de Bashan. C'est très fort, en fait. Si vous voulez, cette division politique ne divise pas la communauté. Elle reste apparente. C'est de l'exotérisme, comme je vous l'ai dit. Le ciment principal au sein de la communauté, le dogme principal, c'est la survie de la communauté, et donc la communauté ne se divise pas. Elle se divise en apparence, politiquement, en prenant des prises de position, mais au final, la communauté restera unie.
Ce qui est intéressant dans votre démarche, votre travail, Wissam Alaoui, au-delà de la définition même de ce que sont les druzes en tant que communauté, une minorité sociale et religieuse, c'est que vous menez une réflexion plus large sur ce qu'est une minorité, sur la façon dont cette minorité-là, les druzes, sont considérés au sein même de l'islam. On les catégorise parfois, on les catalogue même parfois comme étant des hérétiques. Quelle réflexion vous voulez, vous souhaitez mener justement autour du terme de ce minorité au sein de l'islam ?
Si vous voulez, le thème de l'hérésie en islam m'intéresse énormément et au-delà même des druzes. L'hérésie, c'est, comme vous le savez, en Occident également, on taxe d'hérésie ou d'hérétiques les personnes qui sont soit opposées au pouvoir, soit qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc, c'est très facile dans un monde...
C'est un moyen de marginaliser une communauté entière.
Et même de l'attaquer, de la pointer du doigt, comme les druzes à Souaïda. Parce que vous, les informations qui vous arrivent en Occident sont limitées. Il faut aller sur les réseaux sociaux qui sont en arabe et voir jusqu'à quel point on appelle au meurtre, on appelle au massacre des druzes parce qu'ils seraient des musulmans ignobles vis-à-vis du prophète de l'islam, des mauvais musulmans, des hérétiques, etc. Donc c'est un moyen très populiste, on va dire, ce qui est la religion aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est une manière très populiste de faire de l'activisme politique, militaire et des massacres. Parce que j'imagine que derrière cela, il y a des raisons plutôt économiques qui sont différentes. Mais c'est toujours l'élément religieux qui est pris en compte. Et donc, mon intérêt par rapport à l'hérésie en islam, c'est tout simplement mon intérêt au pluralisme en islam. Parce que si on enlève le pluralisme à l'islam, on se retrouve avec un islam fanatique peut-être, uniquement sunnite, monolithique, ce qui n'a jamais existé en histoire. Et c'est ce que on essaie de nous imposer.
L'islam n'a jamais été un bloc, c'est ce que vous répétez, affirmez.
Jamais, jamais. L'islam a toujours été pluriel. Il y a toujours eu des islams, d'où le nom de ma chaire, c'est l'histoire des islams. Et donc, nous avons toujours, dans le monde arabo-musulman, eu plusieurs islams qui n'étaient absolument pas d'accord entre eux.
Du point de vue, cette fois-ci, des pouvoirs centraux, et je pense notamment au pouvoir central en Syrie, comment expliquez-vous que les druzes occupent une place si importante, alors que du point de vue numérique, ils constituent une minorité de faible importance?
Alors, je ne suis pas sûr, mais je peux me tromper, qu'aujourd'hui les druzes occupent une place si importante. Et ils occupent une place
importante... Pour le pouvoir central à Damas.
Oui. Les druzes se sont révoltés pratiquement après Challah, parce qu'ils ont participé à l'arrivée de Challah au pouvoir et ils ont été mis de côté. Donc, ils n'étaient pas contents. Donc, c'est premier mécontentement. Et donc, Al-Challah ne leur a pas donné assez de place. D'où le fait que Walid Jumblatt était le premier leader libanais druze à aller rencontrer Al-Challah, ce qui lui a été largement reproché par sa propre communauté et plus largement. Donc, si vous voulez, les druzes ont souvent, en histoire, occupé une place assez importante malgré leur nombre, puisque par exemple si on revient à la révolte de 1925 contre le mandat français, qui s'est appelée la révolte arabe, mais à la base c'était la révolte druze, qui est partie de Jabal Druze, donc de la montagne des Druzes. Donc c'était à la base une révolte druze qui est devenue une révolte arabe. Les Druzes du Liban ont été au cœur des négociations nationalistes, arabes, etc. Donc, si vous voulez, souvent, les druzes ont joué un rôle politique important malgré leur faible nombre. Soit parce qu'ils étaient bien représentés politiquement, soit parce que militairement, ils ont cet aspect très clanique qui en deux jours, ils peuvent prendre les armes pour se défendre, pour défendre une cause ou pour défendre leur communauté ou leur famille. Donc, oui... mais aujourd'hui, la Syrie ne les a pas vraiment pris en compte. Et le gouvernement intérimaire de Challah ne les a pas pris en compte. Et bien évidemment, les djihadistes de Challah, que Challah lui-même ne peut pas contrôler, ne les a pas du tout pris en compte. Et donc, les druzes sont faciles, pragmatiques. Ils veulent leur survie. Donc, si la Syrie ne les prend pas en compte, ils s'adressent à Israël.
Merci beaucoup, Wissam Alaoui. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université de Lausanne, titulaire de la chaire Histoire de l'Islam et des mondes musulmans, spécialiste de l'Orient musulman médiéval et prémoderne. Vous avez fait paraître aux presses universitaires de France dans la fameuse collection Que sais-je, l'ouvrage intitulé Les Druzes. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la réalisation ce soir, comme chaque soir, Léa Racine.